Chers éditeurs, bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel et vous allez pouvoir écouter l'émission « Parler pour ne rien taire » animée par Olivier Lestis et Dominique Desmichel. Olivier, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est une question complexe, difficile à travailler, complexe dans sa réflexion, dans l'élaboration de son contenu et qui vient toucher au cœur de chacun à la fois quelque chose qui, pour un bon nombre d'entre nous, nous est totalement étranger, mais dont on sait, à contrario, qu'il se produit de manière dramatique dans de bon nombre de situations. Je veux parler de l'inceste. Alors, Olivier, je te propose d'essayer, pour commencer, d'essayer de définir un petit peu l'inceste, en sachant que, à la fois, on a le sentiment un petit peu que tout le monde sait ce que c'est, et qu'en même temps, quand on essaye de comprendre et de donner une définition un peu précise, on se heurte quand même à pas mal de difficultés.
Oui, alors en prologue, on va aussi dire que cette émission, on avait décidé de la faire avant l'actualité récente concernant l'inceste, hein, qui a fait l'objet d'un livre de Camille Kouchner, voilà, bon, mais que aussi cette question et ce livre-là sont dans la continuité sans doute de ce qu'on appelle depuis quelque temps déjà une espèce de mouvement de libération de la parole, hein, qui a commencé avec MeToo, etc. Donc autour toujours des violences sexuelles, on arrive à celle de l'inceste. Voilà, mais je voulais préciser que c'était un sujet qui... C'est un sujet ancien, voilà. Forcément, qu'on a tous plus ou moins côtoyé aussi des gens qui en ont été victimes, qu'on a forcément tous côtoyé des gens qui en ont été victimes, qu'on le sache ou pas, d'ailleurs, et que c'est... nous voulions en parler indépendamment de toute question d'actualité, même si cette actualité, effectivement, donne...
Une résonance
tout à fait particulière. Ouais.
Alors, est-ce qu'on essaye de commencer par une définition de l'inceste ? Olivier, tu veux commencer ?
Oui, alors déjà, je pense qu'il y a souvent une... Non pas une confusion, mais une collusion de la question de l'inceste et de la question de la pédophilie en ce moment, parce qu'on a aussi beaucoup parlé, évidemment... De la pédophilie, ça ne se croise que partiellement. C'est-à-dire que la question de la pédophilie, on pourra y revenir aussi un jour, ressort vraiment de ce qu'on appelle les perversions. Pour ce qui est de l'inceste, je crois que, bien sûr, que la perversion est une dimension qui est présente, mais ça va très au-delà de ça. Ça pose tout un tas d'autres questions, et notamment... des questions très anthropologiques, c'est-à-dire qui traversent les temps, les époques et les sociétés aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très universel dans l'interdit, le tabou de l'inceste, beaucoup plus universel que, par exemple, l'interdit ou le tabou de la pédophilie, qui n'est pas nécessairement aussi permanent, ou en tout cas pas aussi radical qu'il l'est dans nos sociétés aujourd'hui. Donc déjà, distinguer ça, pour bien préciser que la pédophilie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est le fait d'être sexuellement attiré, de passer malheureusement à l'acte, d'être attiré par des enfants.
On rappelle l'étymologie de pédophilie. Pédophilie, ça vient de païdon en grec, qui veut dire l'enfant. Ça a donné le mot pédiatre ou pédiatrie, par exemple.
Pédagogie.
Pédagogie, voilà.
Voilà, donc c'est quand même... notamment dans les sociétés grecques, on sait que la pédophilie était même, dans une certaine mesure, dans un certain contexte, relativement favorisée. Alors, on en a dit beaucoup de choses aussi, hein, autour de la Grèce antique, etc. C'était pas du tout une situation généralisée, etc. Mais il y avait une dimension d'apprentissage qui pouvait s'accompagner d'initiation sexuelle, en fait, par un adulte. Alors, ça se passait entre hommes, hein, par un adulte du même sexe. Mais ça n'était absolument pas... quelque chose qui était préconisé d'une manière large dans la société. Mais enfin, en tout cas, il pouvait y avoir des situations pédophiles à d'autres moments, à d'autres époques, dans d'autres sociétés certainement aussi, parfaitement admises, ce qui nous paraît à nous, évidemment, relever de l'horreur la plus totale aujourd'hui.
Et il faut bien le rappeler.
Et il faut le rappeler, oui, absolument.
Il faut bien le rappeler.
Oui, hein. Oui.
Autre temps, autre mœurs.
C'est ça. Alors que l'inceste a toujours, en tout cas... pour ce qu'on connaît de l'histoire, de la préhistoire et des différentes sociétés humaines, a toujours fait l'objet d'un interdit. Et d'ailleurs, tu signalais, lorsque nous préparions cette émission, que c'était aussi quelque chose qui dépassait le seul registre humain et pouvait exister aussi chez les animaux.
Oui, on retrouve en effet cet interdit de l'inceste. On va revenir un petit peu sur
la définition,
mais on pourrait dire par exemple du mélange des générations. Il y a deux générations, une génération d'adultes et une génération en dessous, et c'est ce mélange des générations qui définirait en quelque sorte l'inceste. Et on sait chez les animaux, en tout cas, que les femelles le plus souvent quittent le groupe originel, le groupe dont elles sont issues. Ça renvoie d'ailleurs à une dynamique qui est la dynamique de la vie. Tu quitteras ton père et ta mère et tu iras établir un autre foyer avec ton époux, avec ton épouse, avec ton conjoint ou ta conjointe. Voilà, alors on trouve donc ça chez les hommes, mais aussi chez les chimpanzés et les bonobos. Et on sait même que dans d'autres race animale, de temps en temps, même si la femelle reste dans son clan d'origine, alors cet interdit de l'inceste est respecté par les adultes vis-à-vis des générations qui suivent.
Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est un inceste, on va dire, dans sa définition la plus resserrée. Puisque dans ce que tu dis, il y a systématiquement un lien familial, un lien génétique. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension biologique de la reproduction qui intervient.
Tout à fait.
Aujourd'hui, l'inceste a une définition un peu plus large. Juridiquement, par exemple, les collatéraux peuvent aussi être qualifiés d'incestueux. Oncle, tante.
Ils le sont même.
Ils le sont juridiquement, très clairement. Il y a également, évidemment, une qualification d'inceste pour les beaux-parents, c'est-à-dire, par exemple, à l'issue d'un remariage de la mère et d'une éducation, enfin, d'un beau-père. Quoi. Là aussi, la qualification d'inceste est retenue.
Ce qui de façon pleine et entière.
Voilà, alors qu'il n'y a pas ce lien de départ
biologique
quoi.
Alors il faut rappeler peut-être aussi un tout petit peu les faits. On considère que au minimum 5% des enfants sont concernés par cette problématique, par ce drame au fond, par ce meurtre, on va y revenir il me semble, et qu'en 2018 par exemple 23 560 plaintes ont été déposées pour des violences sexuelles sur des mineurs. Avec plus de
7... En France seulement.
En France, oui, bien sûr. Oui. Avec plus de 7000 dans le cadre strictement familial. Il faut rajouter que le plus souvent, la première agression sexuelle survient vers l'âge de 9 ans. Donc les enfants sont CM1. Et dans une enquête qui a été faite il y a quelques années, qui s'appelait l'enquête Virage, il semblait qu'un homme sur 8 et une femme sur 5... déclaré avoir subi des violences para- ou intrafamiliales d'ordre psychologique, physique ou sexuel avant l'âge des 18 ans. Et bien évidemment, il faudrait rajouter à cette population qui parle de ce qu'ils ont vécu, tous ceux qui n'en parleront jamais, on aura l'occasion de reparler de cette chape de silence qui s'abat sur toutes les victimes et aussi d'ailleurs, bien sûr, les coupables. Rappelons à ce moment-là que les incestueurs, alors j'aime bien utiliser ce mot, c'est-à-dire de se dire que les gens qui commettent ce type de choses sont dans une certaine mesure des meurtriers. Les incestueurs sont entre, pour 96, 97 ou 98% des hommes, mais nous reparlerons quand même, je pense, plus tard dans nos prochaines émissions, de quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un inceste commis par les mères. On en reparlera dans un autre contexte, parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Voilà, j'avais envie de commencer par cette question qui est un peu, enfin, cette proposition qui est un petit peu provocante, qui est de rappeler que l'inceste est interdit sur toute la planète, c'est-à-dire dans tous les peuples, dans toutes les peuples, cet inceste est interdit. Il faut rappeler que si on pose un interdit sur quelque chose, c'est parce qu'il y a un désir. Comme je le dis souvent, il n'y a aucune loi qui n'ait jamais été édictée par aucun gouvernement sur la planète disant qu'il est interdit de manger les cailloux qui bordent les routes. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'en fout et que ça n'a pas d'incidence particulière. Donc si on pose un interdit, c'est qu'il y a un désir. Et je voudrais rappeler qu'il y a deux interdits majeurs, et probablement il n'y en a pas trois, deux interdits majeurs qui structurent, Lévi-Strauss a dit que l'interdit de l'inceste était même quelque chose de tout à fait fondamental dans les grandes structurations anthropologiques de notre société, que ces deux interdits, c'est l'interdit du meurtre et l'interdit de l'inceste. Alors je prends un tout petit mot, je dis un tout petit mot sur l'interdit du meurtre, il est simple, c'est tu ne dois pas tuer l'autre, et quand bien même tu aurais été sa victime, il y a lieu de confier à un tiers, en l'occurrence la justice, le soin de réparer, enfin de porter la justice et de réparer ce qu'il y a, ce qui a été commis. Voilà. Et le deuxième, c'est l'interdit de l'inceste. Alors peut-être on peut quand même retravailler, essayer de retravailler un tout petit peu la définition.
Oui, mais peut-être que cette définition, il faut, enfin c'est vraiment très compliqué parce que là aussi il y a un autre élément alors qui n'est pas tout à fait celui d'une définition, mais qui est aussi une distinction, c'est-à-dire qu'à la fois, donc, on ne peut pas confondre l'inceste et la pédophilie. Je pense qu'il faut aussi dire que l'inceste ne relève pas nécessairement non plus du viol. Pas nécessairement. Mais bien sûr que ça peut aussi se trouver comme ça, mais pour expliquer notamment la chape de silence dont tu parlais tout à l'heure, il faut considérer quelque chose d'assez effroyable aussi, qui est souvent la culpabilité ressentie par la victime. C'est-à-dire que il se peut, et très souvent les victimes, se considèrent comme en partie responsables de ce qui s'est passé, notamment lorsqu'elles sont peut-être un peu plus âgées, parce que malheureusement les incestes peuvent commencer extrêmement tôt, et on ne peut pas non plus l'assimiler à du viol. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux amalgames. Encore une fois, ça n'excuse rien, mais on ne peut pas parler d'inceste de manière un peu intelligente, un peu dépliée, si on lui associe nécessairement les dimensions de la pédophilie et du viol, par exemple. Même si, encore une fois, ça peut se retrouver de la même manière. Bon, pour revenir un tout petit peu sur la définition, donc, ce qu'on peut rappeler, on l'a dit déjà, c'est qu'il y a une dimension à la fois très resserrée et qui est celle de l'inceste commis par quelqu'un qui est géniteur, et l'inceste commis par quelqu'un qui occupe une position symbolique, non pas de géniteur, mais paternelle. Dès lors, on peut même éventuellement parfois aller beaucoup plus loin que le juridique dans la définition de l'inceste. Je veux dire par là que quelqu'un qui occupe une position symboliquement d'influence éducative peut pratiquement relever de l'inceste. Je pense à un éducateur. On parlait tout à l'heure du beau-père. Alors évidemment, tu le disais, hein, il n'y a pas tout à fait que des hommes, mais je dis beau-père parce qu'il y a extrêmement majoritairement des hommes qui sont des incestueurs, comme tu le dis très justement. Mais cette position paternelle peut être occupée par un maître, quel qu'il soit, quoi. Et là aussi, la dimension de l'inceste est potentiellement très très présente, ce qui est assez problématique parfois, parce qu'il y a des situations d'inceste, qu'on pourrait psychiquement qualifier d'inceste, qui ne relèvent pas d'une qualification juridique d'inceste.
Oui, c'est pour ça que moi j'aime bien, quand j'ai envie d'essayer de résumer la question de l'interdit de l'inceste, c'est de dire que c'est l'interdit du mélange des générations. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une génération du côté des parents et il y a la génération d'après. Et en effet, de temps en temps, ces incestués face aux incestueurs sont des personnes qui sont d'abord et avant tout dans une situation de dépendance par rapport à l'autre, cet incestueur qui est au fond l'adulte.
Oui, et tu parlais très justement tout à l'heure de l'interdit lié forcément au désir, ce qui est encore plus problématique dans le cas de l'inceste, c'est que au fond, cet interdit porte peut-être moins sur le désir du fauteur, donc de l'incestueur, que sur le désir de l'incestué. Parce qu'en réalité, pour un enfant qui est en plein développement, ou un adolescent qui est en plein développement de sa sexualité, ou en tout, en plein questionnement, très tôt, hein, ça arrive très tôt ces choses-là, mais il est relativement naturel que le désir s'adresse à quelque chose qui représente une espèce de modèle de l'adulte, c'est-à-dire celui qui a passé la frontière de la sexualité. Donc il y a toujours une dimension. Il peut toujours y avoir une dimension incestuelle, il faut faire très attention quand on dit ça, hein, mais du côté de l'enfant ou de l'adolescent, en tout cas de la personne en développement relativement à sa question sexuelle. Donc en fait, s'il peut, et c'est très souvent comme ça que les choses se sont d'ailleurs traduites, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les cas d'inceste, très souvent la victime devient l'accusée au sein même de la famille. Ah mais oui, mais il ne fallait pas que tu te comportes comme ça, genre comme un séducteur ou une séductrice, quoi. C'est toute la question, par exemple, puisque même si nous avions prévu cette émission avant, on a un exemple que beaucoup, beaucoup de gens ont en tête aujourd'hui, avec l'histoire de la famille Kouchner. C'est-à-dire qu'à un moment, il est bien dit dans le livre, par exemple, que il pouvait y avoir une position de séduction d'un jeune garçon vis-à-vis de son beau-père, en tant que le beau-père est aussi l'objet sexuel de sa mère, et qu'il pouvait lui vivre une forme d'identification à sa mère, comme n'importe quel enfant peut vivre des situations d'identification avec ses parents, évidemment. Donc là, c'est très délicat, parce qu'évidemment, on pourrait dire, puisqu'il désire, il est coupable. Or, évidemment, non. Ce n'est pas parce qu'on désire qu'on est coupable de la réalisation de l'acte en lui-même, puisque ça n'est pas le jeune qui est en position de responsabilité dans la situation d'inceste. Mais je pense que vraiment cet interdit de l'inceste, ce tabou de l'inceste, s'adresse d'abord à l'enfant plus qu'aux parents, très curieusement. Ça, c'est quelque chose qu'on a assez rarement en tête. Mais tu as une très jolie métaphore du verrou de la salle de bain pour expliquer ça, je crois, un peu plus
Alors on peut en
concrètement.
parler un tout petit
Oui.
peu, maintenant. Au fond, pourquoi pas? Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment, au fond, se transmet la question de cet interdit de l'inceste. Si on se rappelle, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a deux interdits majeurs, l'interdit du meurtre et l'interdit de l'inceste, tout le monde sait bien que les parents enseignent à leurs enfants l'interdit du meurtre. Évidemment, comme parents, on ne dit pas très souvent je t'interdis d'aller tuer le voisin, mais on sait très bien qu'à l'intérieur de nous tous, de temps en temps, on a un petit peu envie d'être agressif vis-à-vis, je ne sais pas, du voisin qui garde toujours sa voiture devant notre sortie de garage et on lui a dit 15 fois, il continue comme ça, voilà. Et donc là, il y a une espèce de pulsion un petit peu meurtrière. Heureusement, dans notre enfance, on a appris qu'en gros, ça ne se faisait pas, qu'il ne fallait pas. Et là, on voit bien le lien qu'il y a entre le désir et l'interdit. C'est-à-dire, j'ai très, très envie d'étrangler mon voisin. Je mets étrangler, entre guillemets, bien évidemment, ou de lui faire la peau, tout ça étant bien sûr entre guillemets, c'est-à-dire lui dire qu'il y en a marre. Ça fait plein, plein de fois que je lui dis de ne pas se garer là. Et il continue quand même. Mais mon éducation me dit non, non, je ne fais pas ça, je refoule ma violence et je vais au commissariat ou chez les gendarmes pour dire que vraiment un petit peu ça suffit. Du côté de l'interdit de l'inceste, moi je me suis posé beaucoup cette question de savoir, mais comment ça se transmet au fond, hein? C'est-à-dire comment les parents disent explicitement ou implicitement que cet interdit de l'inceste est tout à fait fondamental et qu'il n'est pas facultatif. Alors, on pourrait revenir un tout petit détour qui tient là à la pulsion pédophile. La grande majorité des adultes, pour ne pas dire la quasi-totalité des adultes, ne ressentent jamais aucune excitation sexuelle à l'intérieur d'eux-mêmes lorsqu'ils voient un petit enfant tout nu sur la plage. Voilà, un enfant de 4, 7 ans, 8 ans, 9 ans, peut-être, comme ça, qui se promène tout nu, bah voilà, en gros, tout le monde s'en fout, on ne fait pas attention, et puis voilà. Les pédophiles, par exemple, vont être excités par ça, et vont ressentir une pulsion sexuelle. Donc je me suis dit, comment au fond ça s'enseigne? Et pour moi, j'ai appelé ça l'histoire du verrou de la salle de bain. C'est quoi le verrou de la salle de bain? Pendant toute la petite enfance, mon exemple, vous allez voir, il est métaphorique. Hein, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, il ne faut pas le prendre comme une sorte de consigne que je voudrais donner. Il faut l'entendre comme une sorte de petite fable, hein, ou de petit conte qui dit quelque chose. Quand l'enfant est tout petit, en gros, quand le père ou la mère est dans la salle de bain, qui prend sa douche et qui sort tout nu de la douche, si le petit enfant rentre parce que la porte est ouverte, eh ben, il n'y a pas de problème. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme asexué, ce qu'il est dans une certaine mesure. On sait bien depuis le travail de Freud et puis tous les autres après que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais que...
Disons qu'il n'est pas... Si, asexué, je pense qu'on peut le dire très clairement. C'est-à-dire qu'il n'est pas génitalisé, c'est-à-dire que sa sexualité n'est pas orientée autour de la sexualité
génitale.
Propre, voilà.
Tout à fait. Et donc, il n'y a pas de problème. Et puis, il va se passer à un certain moment où, de manière en général tout à fait spontanée et instinctive, un jour, un des parents va être dans la salle de bain, il sort de sa douche et l'enfant rentre, comme ça, il ouvre la porte, il rentre dans la salle de bain et le parent lui dit « Eh oh, non mais ça va plus quoi eh, eh. !» L'enfant est étonné, dit « Ben quoi ?»« Ben non, maintenant t'es trop grand, je vais fermer la porte de la salle de bain et avant de rentrer, si tu vois que la porte est fermée, tu frappes. » Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire « Je te reconnais, toi, mon enfant, mon fils ou ma fille, dans un statut sexué, avec l'irruption, l'émergence de cette sexualité, en particulier génitale, que tu évoquais là. » Et donc, on met une séparation. On met une séparation qui porte évidemment que sur le regard, ici, sur cette possibilité de voir l'autre nu, voilà. Et à contrario, d'ailleurs, les parents vont faire la même chose avec leurs enfants, c'est-à-dire l'enfant qui grandit est dans la salle de bain, et on va lui dire « Bon, quand tu prends ta douche, tu fermes ta porte. » Sous-entendu, je ne veux pas, moi, risquer de rentrer et de te surprendre tout nu dans la douche. Voilà, je prends des mots tout simples, hein, tout bêtes. Et si ça arrive, eh bien, le parent dit à l'enfant « Écoute, quand tu prends ta douche, ferme la porte, et puis ferme le verrou, il y a une clé. » Donc, je dis souvent que l'interdit de l'inceste se transmet par le verrou de la salle de bain. Il ne s'agit pas de dire que dans toutes les salles de bain, il faut qu'il y ait un verrou, parce que de temps en temps, il suffit que la porte soit fermée pour que l'enfant sache. Et d'ailleurs, il y a des tas de situations où il n'y a pas de verrou. La porte est fermée, l'enfant sait qu'il ne rentre pas. Voilà, il fait toc-toc, il y a quelqu'un, toc-toc, je peux rentrer, toc-toc, maman ou papa, t'es dans ta douche, ou pas la douche ou autre chose, enfin voilà, peu importe. La salle de bain est là le témoin de l'intime. Il vient dire l'intime du corps et d'un intime du corps qui ne peut pas être partagé entre deux générations. Donc, moi, je crois que ça, c'est très, très important. Et dans l'expérience que j'en ai, et malheureusement, une grande expérience d'écoute de beaucoup de ces femmes et aussi de ces hommes qui ont été victimes d'inceste de la part de parents ou d'équivalents parents, hein, puisqu'on peut le dire peut-être comme ça, que très souvent j'ai posé la question, et la porte de la salle de bain. Et la porte de la salle de bain était, on pourrait dire, tout le temps ouverte. Il ne s'agit pas pour moi ici de faire de la morale, je le reprécise bien, mais de dire que la fermeture de cette porte de la salle de bain vient signifier qu'à un certain moment, la génération parentale et la génération des enfants ne peut pas, entre guillemets, se mélanger, même si là, on est dans une sorte de mélange tout à fait à minima, mais qui ouvre l'accès à l'intime de l'autre.
Oui, on voit bien dans ce conte Avec sa dimension sans doute de réalisation réelle, souvent, hein,
ouais.
Manifestement, constatée, on voit bien, ça illustre très bien que l'interdit est du côté de l'adulte. C'est lui qui verrouille,
oui. C'est
lui qui interdit. Et c'est là que la responsabilité de l'adulte est très forte, et c'est à partir de là d'ailleurs que le droit s'exerce. C'est-à-dire que l'inceste est bien du côté de la responsabilité de l'adulte qui doit poser cet interdit face à quelque chose de pas très formulé, d'un peu flou sans doute, très flou même dans la plupart des cas, où l'enfant peut avoir quelque chose qui ressemble à un désir, justement, de voir au moins. De voir,
bon, pour connaître, pour savoir à quoi ça...
C'est ça, simplement, c'est une interrogation.
Les filles qui ont un petit peu de poitrine qui commencent, elles vont souvent interroger leurs copines, et pourquoi pas avoir envie de voir le corps de leur mère, ou être traversée par quelque chose du désir du copain qui est dans la classe à côté, et donc d'avoir envie de voir leur père. Donc là, évidemment, c'est le père ou le beau-père, la mère ou la belle-mère, ou les équivalents qui sont là pour dire « ben non, c'est interdit ». Et je trouve que c'est très très intéressant parce que, à la différence de l'interdit du meurtre, dont chacun voit bien dans un processus d'identification que l'interdit est légitime, voilà, arrête de taper ta sœur, ou arrête de taper ton frère, tu comprends bien pourquoi, parce que tu n'as pas envie qu'il te tape ou qu'elle te tape. Là, il me semble, dans l'interdit de l'inceste, il n'y a rien qui est tellement explicité. Mais au fond, ça fonctionne comme ça.
Oui, parce qu'il n'y a pas un registre justement immédiat d'identification. C'est-à-dire que tu ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Ça, c'est
exactement.
Le cas du meurtre.
Oui.
Dans le cas de l'inceste, en fait, il n'y a pas d'équivalence des deux positions. Il y a bien
absolument.
Quelqu'un qui est
tout à fait.
Dans une situation, on va dire, même si le terme est toujours délicat à utiliser en matière psychique, hein, mais la situation normale est bien celle-là, qu'un enfant désire, se pose des questions simplement, hein, désire savoir.
Mm-hmm.
Et le désir de savoir à propos du sexe est fondamental pour tout individu, évidemment. Et d'autre côté, un adulte qui est censé savoir et qui donc pose cette barrière en disant là, non, ça c'est infranchissable, je te le dis. Il n'y a pas du tout de position réciproque. Il y a vraiment une dimension, là, pour le compte, pédagogique, éducative. Contrairement, par exemple, à la situation pédophile, où justement, il n'y a pas nécessairement, en tout cas, il n'y a pas la question du désir de l'enfant qui se pose. Il est passif, plupart du temps.
Oui, oui.
Et victime violente,
voilà.
Effectivement.
Voilà.
Ce qui n'est pas du tout la situation de l'inceste. Et ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus.
On peut d'ailleurs dire à ce propos-là que la grande majorité des pédophiles, hein, précisons bien les choses, on parle d'autre chose, là,
oui.
Hein, même si évidemment il y a des espaces qui se croisent, la majorité des pédophiles n'ont pas de préférence sexuelle. Hein, que ce soit un garçon ou une fille, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que c'est l'enfant presque asexué qui est considéré comme un objet à prendre et à consommer. Hein.
Oui.
Ça, c'est presque la définition, on pourrait dire, enfin, tu me reprendras, de la perversion, c'est-à-dire l'autre est considéré comme un objet, moi je suis tout-puissant par rapport à lui.
Un objet passif et donc non désirant, ce qui n'est pas du tout la situation qu'on rencontre dans la plupart des cas dans l'inceste.
On fait une petite pause et puis on continue sur ce sujet difficile à explorer.
Alors Dominique, un petit point d'histoire peut-être quand même sur ces questions.
Voilà, je pense que c'est toujours intéressant. Moi, je ne suis pas du tout un historien, mais j'ai essayé de retrouver quelques notions un petit peu sur ce sujet. Ce qu'on peut dire, c'est en tout cas dès le Moyen-Âge, donc même probablement dès le début du Moyen-Âge, hein, les rapports sexuels au sein de la famille, entre en gros, on va dire, un adulte et un enfant, sont interdits et ils sont considérés comme un péché grave. Voilà, hein, nous savons bien que la morale chrétienne, et en particulier celle de l'Église, va structurer une bonne partie de la morale sociale, et d'où cette notion de péché. Une des caractéristiques, par contre, c'est que les parents et les enfants sont perçus et ils sont jugés également comme coupables. Ils sont tous les deux jugés coupables. Et je rappelle qu'on va retrouver ça dans nos cultures vis-à-vis du viol, hein, du viol, mais là je parle entre adultes, hein, hors pédophilie ou hors inceste, où pendant quand même très très longtemps, les victimes, les femmes victimes de viol ont été considérées comme plus ou moins un tout petit peu consentantes, hein, et dans quelque chose...
Ou du moins l'ayant bien cherché, c'était ce qui était dit.
Voilà, ce qui évidemment est une sorte de, d'une part... n'a rien à voir avec la réalité et est une sorte de double peine, hein, et d'injure faite aux femmes. Alors, après la sécularisation globale du droit, bien évidemment, on ne parle plus de péché. Et en 1791, puis en 1810, le code pénal, 1810 après Napoléon, hein, le code pénal sanctionne l'attentat à la pudeur et le viol d'un mineur comme un crime. Donc ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique. Et à partir de 1832, apparaît la notion d'attentat à la pudeur sans violence lors de relations sexuelles avec un enfant de moins de 11 ans, sans qu'il y ait besoin d'une violence pour caractériser le crime. Donc ça, c'est vraiment tout à fait important. Si l'auteur est un ascendant, on considère que c'est une circonstance aggravante. Et les crimes sur mineurs vont être jugés à la fin du XIXe siècle par des tribunaux correctionnels, mais avant tout en raison d'encombrement de la justice. Par contre, les incestes continuent d'être jugés et condamnés par les tribunaux d'assises. Hein. Vous savez que ce sont simplement les crimes et les incestes qui vont aux assises. Alors, il y a d'autres circonstances, mais... Je crois que le crime en bande organisée ou des choses comme ça, mais pour ce qui concerne la société classique et qui nous concerne en tout cas, ce sont les deux seules raisons qui amènent aux assises. Donc, les enfants ne sont plus considérés comme coupables en cas d'inceste de nos jours, mais les reconnaître finalement comme des victimes n'est pas si ancien. Je crois que si on reprend un tout petit peu quand même l'émergence de cette question, les victimes d'inceste n'ont véritablement commencé à parler de leurs blessures qu'à partir des années 1980. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même
c'est extrêmement
quelque
récent.
Chose... Voilà, on en avait parlé un tout petit peu avant, c'est tout à fait récent. On peut penser que la parole, les émissions à la radio de la psychanalyste Françoise Dolto ont joué un rôle important dans l'attention portée à l'enfant, dans la confiance dans sa parole, dans l'idée qu'il parle vrai et qu'on peut écouter vraiment cette parole. Je me souviens avoir lu ou entendu, je ne sais plus très bien, mais j'ai pourtant l'image du dessin, donc j'ai dû le voir, un dessin que Françoise Dolto commentait, et elle montre la main que l'enfant a dessinée, une main d'un de ses parents, je ne me souviens plus le contexte, et elle dit « avec cette main-là, probablement parce que ça devait ressembler à un sexe d'homme, si ma mémoire est bonne, mais j'ai un petit peu oublié », elle dit « cet enfant, il avait été victime d'un inceste ». Voilà, dans les années 60-70, on ne parle pas encore de ce terme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui émerge. Je reviens un tout petit peu en arrière sur une période particulière, qui est la période qui suit mai 68. On le sait qu'elle est marquée par une forme de libération sexuelle, probablement en réaction au corsetage des années qui précèdent. Et il est vrai qu'à cette époque-là, certains intellectuels affichent des idées qui défendent, ou en tout cas qui ne condamnent pas les relations sexuelles entre un mineur et un majeur, souvent au nom d'une d'une sorte d'exogamie, c'est-à-dire faut sortir un petit peu de ce modèle bourgeois classique, et alors il faut libérer les mœurs, et on découvre à ce moment-là, il me semble, ou on le découvre plus tard, et on n'a probablement pas fini de le découvrir, que les relations incestuelles ne sont pas rares. En fait, ce qui va être tout à fait déterminant, c'est une émission que les plus vieux connaissent, qui s'appelait Les Dossiers de l'écran et qui était très très regardée à l'époque où il y avait qu'une seule chaîne, peut-être, ou deux chaînes de télévision. Et en septembre 86, il y a une émission sur ce thème et il y a Eva Thomas qui raconte le viol perpétré par son père quand elle avait 15 ans. Et au fond, pour la première fois, une victime d'inceste parle à visage découvert, elle s'adresse à toutes les femmes qui ont vécu cela, et surtout, on découvre une femme qui n'a pas l'air d'être complètement détruite, qui ne se pose pas comme uniquement dans une situation victimaire, et qui revendique la possibilité d'une parole. Elle est la créatrice de SOS Inceste. Elle a aujourd'hui 78 ans et à l'occasion de l'actualité que tu évoquais, Olivier, en début d'émission, il y a eu un article dans les journaux, enfin j'ai lu un article en tout cas, où elle raconte un petit peu son histoire et c'est vraiment tout à fait touchant. Et on mesure combien elle a dépasser un interdit de parole sur lequel nous allons, je pense, revenir. Et dans les jours qui suivent cette émission, de nombreuses enquêtes, des articles sont publiés, de nombreuses enquêtes sont faites, la parole se libère et commence un tout petit peu la possibilité pour les incestués la possibilité de pouvoir parler, d'être cru, d'être entendu. Et ils commencent à trouver des lieux d'écoute et à solliciter la justice. Et je pense que c'est seulement à ce moment-là qu'on perçoit, et on va y revenir, je pense, la gravité des faits et surtout les effets extrêmement terribles et durables que ces crimes font sur les victimes.
Oui, je trouve que dans cette brève histoire de l'inceste que tu viens de nous présenter, on voit très très bien comment les frontières bougent un peu. C'est très intéressant d'entendre dire, par exemple, qu'au départ de la condamnation de l'inceste, les deux étaient condamnés. Parce que sans doute qu'à ce moment-là, l'opprobre portait non pas seulement sur la réalisation, mais sur la question du désir. Et par exemple, on peut aussi se remémorer un peu ce qui est du registre de la confession. On se confesse évidemment de ce qu'on a fait, mais aussi des pensées qu'on a eues. C'est-à-dire les pensées qu'on a eues sont celles qui sont justement du côté du désir, y compris lorsqu'on ne passe pas à l'acte. Et ça aussi fait l'objet d'une condamnation. De ce point de vue-là, on peut sans doute très souvent constater que, en effet, du point de vue du désir, on peut le trouver des deux côtés. Dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais dans énormément de cas. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, de la construction simplement psychique de tous les enfants et adolescents relativement à la question sexuelle. C'est normal. C'est un processus absolument normal. Et du coup, ce qui s'est passé dans une période plus récente, là, on l'entend bien aussi, notamment la période des années 60-70, tout d'un coup, il était légitime de désirer, éventuellement un peu n'importe comment, et puis du coup, on ne se posait pas la question du passage à l'acte qui était pratiquement aussi légitime que le désir. Un peu un mouvement de balancier qui s'oppose radicalement à l'interdit même du désir, enfin à la condamnation même du désir. Là, si on ne condamne plus le désir, on ne condamne plus non plus sa réalisation, en quelque sorte. Et puis aujourd'hui, on essaie de retrouver simplement, probablement parce qu'on en constate aussi les dégâts des passages à l'acte, on essaie de distribuer un peu ces choses-là. Et le signe qui me paraît le plus évident d'un changement à nouveau, ouais, effectivement, on sépare bien la question du désir de la question de sa réalisation, c'est le registre de la honte. Aujourd'hui, on peut parler, sans doute parce que la honte n'est plus aussi présente. C'est-à-dire sans doute aussi parce qu'on a bien séparé le registre du désir, qui n'est pas honteux, qui nous habite tous, et la question de la responsabilité, de l'interdit, de poser des limites, enfin de faire en sorte qu'on puisse continuer à faire société sans générer systématiquement des traumatismes en passant à l'acte avec des personnes qui ne sont absolument pas prêtes psychiquement à le faire, quoi. Donc je pense que cette évolution est très intéressante, hein, de condamnation du désir, puis légitimation du désir, et puis on fait un peu n'importe quoi du coup, enfin entre guillemets, hein, j'exagère un peu, mais peut-être pas tant que ça. Et puis une séparation des registres du désir et de la réalisation de ce désir, où là effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'on désire tuer quelqu'un. On peut le dire. On peut le dire, tu l'as dit tout à l'heure, ce voisin fictif, hein, certainement, qui gare sa voiture devant la porte de ton garage, ben oui. C'est une espèce d'envie de meurtre. Comme, voilà. Sauf que, à ma connaissance en tout cas, tu ne l'as pas tué.
Bien évidemment.
Voilà.
Pas. Alors, oui, ça, dans ce que tu disais à propos des pensées, je me rappelle quand j'étais petit et que j'allais en effet aussi à confesse, on disait, j'ai péché par pensée.
Oui, hein, c'est ça, bien sûr.
Alors, évidemment, moi, je ne peux que m'opposer à ce type de choses, parce que combien de fois il m'est arrivé à la fois de repérer cette sorte de, j'ai envie de dire, de surmoi chrétien, mais dans le mauvais sens du terme, qui entraînait une culpabilité stérile, paralysante, et surtout qui n'avait strictement eu aucune utilité. Donc, il m'arrive très très souvent de dire, madame, monsieur, on n'est absolument pas responsable de ses désirs. Voilà. Il y a un désir qui jaillit, qui surgit à l'intérieur de nous-mêmes, comme nos pensées. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire le plus souvent facilement « je pense que c'est une pensée est venue en moi » ou « je désire que c'est un désir est venu en moi ». On n'est responsable que de ce que l'on fait de ces désirs. Hein, ça, c'est très très important. Il n'y a aucun délit si j'ai envie d'aller taper sur les voisins du dessus qui font trop de bruit. Mais évidemment, ça va poser un gros problème si je mets en acte ce désir. Et d'ailleurs, la justice ne condamne jamais quelqu'un à partir de ses seuls désirs. Voilà. Non. Avec de temps en temps d'ailleurs des drames, puisque parfois certains policiers ou gendarmes, quand ils reçoivent des plaintes, disent « tant qu'il ne s'est vraiment rien passé, on ne peut pas faire grand-chose ». Hein. Donc là, il s'agit de la frontière entre, par exemple, la violence physique et la violence psychique. Il peut y avoir une authentique
qui commence à être reconnue, elle aussi, maintenant, voilà. Mais c'est très récent également.
Tout à fait. C'est très récent. Donc, je crois que le désir, au fond, il ne connaît que sa propre logique. Et je trouve que c'est important de le différencier du souhait, parce que le souhait, il est plus complexe et il inscrit, me semble, le désir dans le champ social, et en particulier dans le champ relationnel. Et c'est vrai d'ailleurs dans la sexualité, entre désirs, entre deux adultes. Le désir, même s'il est partagé, il ne suffit pas à lui seul à justifier un rapprochement sexuel. Il faut un consentement éclairé, il faut que chacun sache ce que cela signifie. Probablement, en être certain est difficile, mais ce que l'on peut dire, c'est que l'enfant par rapport à l'adulte, je prends toujours cette opposition hein, dans le cadre de l'inceste, l'enfant, lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a pas les moyens émotionnels, les moyens imaginaires, et encore moins les moyens conceptuels de dire non. Ses défenses, en plus, sont le plus souvent tout à fait rudimentaires, ses moyens de protection sont très fragiles, sa capacité de résistance est très très limitée, et son autonomie en particulier émotionnelle, hein, autonomos, hein, c'est-à-dire sa propre loi qui s'est faite, elle est aussi très très incertaine. Et pendant très longtemps, surtout si l'autre justement est considéré comme un adulte, alors c'est le nomos de l'autre qui vaut pour lui, c'est-à-dire c'est la loi de l'autre qui vaut pour lui. Mon père me tapait et j'ai considéré obligatoirement que c'était normal, parce que c'était mon père. Voilà. Donc ça c'est très 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 important. Brandir son désir ne change rien, à mon avis, à ce qui est possible ou pas possible. C'est autre chose. Le « je te désire » est une chose, mais l'acte lui-même relève d'un échange et d'un partage. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Oui, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un maître mot qui traîne depuis tout à l'heure quand on parle de désir et puis de réalisation. C'est la question de l'inconscient. Puisqu'effectivement, oui. c'est cette, à partir du moment où a été posée vraiment la question de l'inconscient, qu'on peut dire, oui, le désir qui émane de moi émane de pulsions, émane de choses pas très élaborées, émane de choses que j'ignore moi-même, donc je n'en suis pas responsable. Mmh. La responsabilité commence au moment où, effectivement, constatant ce désir, on va décider d'en faire ou pas quelque chose. Mmh. Et là, effectivement, ça se pose. Alors, c'est très compliqué aussi, et je pense que la tâche pour le législateur même plutôt, est très difficile parce que il faut bien fixer là aussi un élément de la réalité pour dire à quel moment il y a ou pas. Or, est-ce qu'on peut dire c'est 13 ans, 15 ans, 18 ans, 21 ans, c'est d'une difficulté extraordinaire, simplement parce que nous ne sommes pas tous égaux devant le développement de notre propre autonomie. Mmh. Et de notre propre capacité à prendre responsabilité, à prendre nos désirs en charge, vraiment sans que ça génère un traumatisme qui ensuite sera payé au prix le plus fort. Hein. Donc c'est une vraie difficulté sur laquelle, en tout cas, je crois, du côté de la psychanalyse, est impossible de trancher vraiment. Mmh. C'est-à-dire que ça ne peut relever que d'un accord collectif, c'est-à-dire d'une loi. Si on dit que c'est 15 ans, eh bien l'adulte a considéré que avant 15 ans, c'est pas possible. Mais il y a des situations où à 18 ans, il n'y a pas plus de maturité relativement à ces questions qu'à 12 ans pour d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment d'une très 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 grande difficulté. Et je crois que là aussi, il faut être très vigilant quand on peut rencontrer des situations de ce type qui sont vraiment, encore une fois, assez systématiquement dramatique. L'évaluation de la capacité à passer du désir à la raison, à la décision, en connaissance de cause, est incroyablement complexe à déterminer, quoi.
Alors, il y a un autre élément que j'avais aussi. Moi, je pense que du côté de cette question de la loi et du consentement, ouais. Je te propose qu'on en reparle après, parce que c'est ouais. vraiment aussi quelque chose qui est en effet tout à fait complexe. Ouais. Et cette notion de maturité sexuelle, avec sa dimension presque charnelle, sociale, psychique, mentale aussi, est quelque chose qui est très complexe. J'avais un peu envie de revenir sur deux choses. Il y a une phrase, moi, que je répète très, très, très souvent. Je m'excuse auprès des auditeurs. Elle est un petit peu brute, mais elle me paraît quand même assez pertinente dans sa formulation. Je vais revenir après sur cette question de l'attachement et du lien. Je dis souvent, à chaque fois qu'on ne peut pas faire du lien, on fait du cul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a quelque chose au cœur d'une relation, au sein de cette relation, il y a une difficulté à faire vraiment un vrai lien, qui pour des raisons psychiques, je dis bien pour des raisons psychiques, repose sur des affects, des sentiments, une vraie relation, alors on fait du cul, c'est-à-dire par exemple on a une sexualité en espérant que ça fasse du lien. Et je le dis ça justement d'autant plus que, je dis ça sans aucun jugement de valeur, hein, il s'agit parce que c'est une forme de tentative, hein, de faire du lien. Simplement, le plus souvent, ça ne marche pas. Et ça rejoint quelque chose que je trouve toujours très très étrange, qui est, je crois que c'est le psychanalyste Bowlby qui disait, qui a beaucoup parlé de la question de l'attachement, et il disait quelque chose comme ça, l'attachement tue le désir. Et je crois que le désir, dans sa composante, en tout cas charnelle. Et je trouve que dans les relations incestuelles, comme dans les relations incestueuses, il me semble qu'il y a une problématique de l'attachement. Et que lorsque un parent a un attachement affectif puissant vis-à-vis de son enfant, c'est comme si, presque de manière parallèle, s'évanouissait la question du désir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, au fond, il y aurait une sorte d'opposition, qui est en même temps aussi une complémentarité, mais d'opposition entre L'affect, ici, est ce qui se joue dans l'espace de la relation charnelle. Et lorsque l'affect est puissant entre le parent et l'enfant, il n'y a, j'allais dire, automatiquement ou naturellement, il n'y a pas de place pour le corps sexué, alors qu'il peut y avoir tout à fait un attachement charnel, hein, des gros bisous, les gros câlins, et viens contre moi, et voilà, hein, ce n'est pas de cet ordre-là. Voilà, donc j'aime bien penser aussi que lorsqu'il y a une situation avec un incestueur, chez cet homme, il y a une vraie problématique de l'attachement.
Oui, on peut le dire aussi. Oui, je pense que c'est parfaitement juste. On peut le dire aussi du côté de sujet et d'objet, on va dire. C'est-à-dire que quand tu parles de l'attachement, tu considères la personne dans sa totalité et dans son autonomie, justement. Oui. Et puis là où elle en est, de son autonomie aussi, si c'est un enfant, pas encore autonome, quoi. Bon. Dans la relation charnelle, le corps est massivement présent, évidemment. Mmh. Il peut être exclusivement présent dans le cas d'une consommation charnelle, comme on peut...
Sex friends.
Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est plus trouble que ça, parce qu'il y a friends dans le truc, on ne sait pas très bien, on sait pas très bien ce que ça peut devenir, ces relations-là, mais bon. D'autant qu'elles sont parfois extrêmement durables, il semblerait. Donc, et ça fait appel peut-être à une dimension de l'engagement qui est encore une autre dimension, mais bon, en tout cas dans le cadre sexuel, l'autre a toujours plus ou moins, mais très fortement en tout cas, un statut d'objet. Dans le cadre de l'incestueur, pourquoi est-ce que tu insistes là-dessus, et je pense que tu as tout à fait raison, l'incestueur qui répond à l'incestué, c'est parce que l'enfant réduit à sa dimension d'objet, ce qui est encore plus vrai sûrement chez les pédophiles, mais qui l'est aussi dans le cadre de l'inceste, lorsqu'il s'agit d'un enfant en tout cas, est nié dans sa dimension de personne, de sujet, autonome, n'est plus que cet objet dont on va user pour son propre plaisir. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est de nature à créer réellement du lien, c'est au contraire quelque chose qui a une dimension de consommation avec tout ce que la consommation comporte de destruction de l'objet qu'on utilise. Tous les objets de consommation sont des objets qu'on use, qu'on amène à être détruits. Je veux dire, quand on utilise une feuille de papier qu'on écrit dessus, elle n'est plus utilisable après. Elle est, voilà, donc c'est cette question paraît... peut être dite comme ça aussi, de la place du sujet, c'est-à-dire de l'autre, indépendant, ou de la place de cet autre qu'on absorbe, qui n'est plus que l'objet dont on use, quoi, et dont on abuse, évidemment.
Donc on pourrait dire, dans une certaine mesure, que l'inceste, c'est le crime qui concerne le lien, voilà, on pourrait dire, hein, c'est le crime du lien, et au fond, on pourrait dire, mais c'est le crime d'un lien où il n'y a pas de lien vrai. Voilà, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est peut-être vraiment important. Bon, je crois qu'on arrive un petit peu au bout de l'émission, donc je te propose qu'on arrête là pour aujourd'hui, et on va reprendre ça avec des tas d'autres notions qui sont encore à explorer. Merci Olivier.
Merci Dominique, à bientôt.
Au revoir.
Thank you.